Alors nous voici ici à la boîte à récup, une ressource rue qui est située 60 rue Courteline à Saint-Herblain. Et donc je vais vous laisser mes deux invités se présenter.
Bonjour, donc Jean-Pierre, je suis le président de la boîte à récup.
Bonjour Léa, donc je suis la salariée de la boîte à récup.
Bonjour Jean-Pierre, merci pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous exposer rapidement, succinctement, en fait, le projet de la boîte à récup?
Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours été intéressé, passionné par tout ce qui était environnemental, tout ce qui était gaspillage. Donc, j'ai commencé mon expérience dans le bénévolat, dans une structure qui s'appelle Station Service à Rezé. J'étais bénévole pendant un an et demi et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, ça a été pour moi un marchepied pour recréer la boîte à récup. Donc, j'ai eu une très, très bonne entente avec Philippe, qui est le président de cet asso. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une asso dans mon quartier d'origine, c'est-à-dire sur Saint-Herblain, Beauséjour, Braye. Donc, c'est un quartier où il y avait très peu de ressourceries. Et donc, voilà, c'est encouragé par Philippe, donc le président, donc qui m'a aidé au départ pour les statuts, parce que on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de créer une asso, donc c'est pas une chose simple. Donc voilà, on a lancé cette idée, enfin je devrais dire plutôt j'ai lancé l'idée parce qu'au départ j'étais seul, en juillet 2016, donc ça fait à peine 2 ans maintenant, et on a ouvert notre local en décembre 2016, donc ça fait 15-16 mois.
D'accord, merci. Léa, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle au sein de la ressource de la boîte à récup, pardon?
Oui, donc en fait, je suis vendeuse valoriste. Donc le principe, comme l'a expliqué Jean-Pierre, c'est de récupérer les objets, leur donner une seconde vie. Donc on fait des recherches au niveau des prix. On fait en sorte de les exposer bien comme il faut dans le local. Voilà, après, il y a tout ce qui est communication, la réserve. Voilà, et puis accueillir le client et vendre les objets.
D'accord. Alors, effectivement, donc vous êtes le président fondateur d'une association, c'est ça? Que la ressource rue, c'est une association.
Oui.
Vous avez deux salariés et vous avez plusieurs bénévoles.
Oui.
D'accord. Quelle est la différence entre les salariés et les bénévoles? Alors, qui peut répondre ou qui veut répondre?
Bah, disons que la différence, c'est qu'en termes de travail, en termes d'implication, c'est quand même très différent, puisque un bénévole est là ponctuellement et il donne de son temps, c'est déjà formidable. Et c'est des gens ici qu'on a et qui viennent, qui sont vraiment fiables et qui viennent régulièrement, mais ils vont venir, on va dire, une demi-journée à peu près par semaine, tandis que là, on est sur 2 temps partiels concernant nos 2 salariés, donc c'est du 20 heures par semaine, donc c'est vrai que c'est des gens qui sont là beaucoup plus régulièrement et qui sont quand même plus investis, qui sont là vraiment... à qui on peut demander plus de choses, très clairement, par rapport à un bénévole, même si les bénévoles sont très très importants pour une asso comme la nôtre, puisque c'est vrai qu'au-delà de 2 salariés, ce serait vraiment compliqué de la création d'un troisième poste pour l'instant.
Léa, par exemple, vous êtes bénévole ou salarié?
Je suis salariée depuis juin, donc ça fait à peu près 10 mois que je suis arrivée au sein de la boîte à récup, et je suis très contente d'être là, ça se passe très très bien. J'apprends beaucoup aux côtés de Jean-Pierre et c'est une super aventure, donc voilà.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir, de postuler en fait pour travailler dans une ressourcerie, et dans cette ressourcerie-ci, si la question a un sens?
Alors en fait, je ne connaissais pas trop le terme ressourcerie. À vrai dire, j'avais déposé mon CV sur Pôle emploi et c'est Jean-Pierre qui est venu me contacter. Donc il m'a très bien présenté l'association par téléphone, ce qui m'a donné envie de tenter l'aventure. Donc je l'ai rappelé quelques jours après pour prendre rendez-vous et voilà, je suis partie dans l'aventure. Donc voilà.
Il faut bien savoir que, si je peux me permettre, Olivier, que c'est pas, au départ, ça n'a pas forcément été évident de recruter, parce que le terme d'agent valoriste n'est pas quelque chose de connu auprès du public en recherche d'emploi, et puis d'un plus large public en général. Ce sont des nouveaux métiers, et on a été obligé de changer un moment l'annonce, parce qu'on voyait qu'on avait très très peu de demandes, parce que les gens, tout simplement, ne savent pas ce que c'est. Donc, on va rappeler brièvement que valoriste, c'est mettre en valeur des objets qui sont destinés, il faut le dire très, très clairement et crûment, à la benne ou à la déchetterie, qui pour beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, n'auraient plus d'intérêt. mais qui en ont encore. Donc on les revalorise, on va dire, on les sélectionne, on leur redonne une seconde vie en les mettant à petit prix dans nos locaux, et c'est aussi ce que font les autres structures. Et on a pu sauver comme ça, je dis n'importe quoi, ça peut être des vélos, beaucoup de livres forcément, des vinyles. Il y a un monsieur qui avait toute une collection de transistors des années 60 qu'il voulait jeter carrément, et il est venu nous voir un petit peu en désespéré en disant bon, si vous les prenez pas. Et c'est vrai que c'est des choses qui avaient vraiment une certaine valeur, et voilà, et qui font partie du patrimoine de beaucoup de gens. Donc c'est vraiment intéressant. Donc après, c'est voir ce qui est intéressant pour remettre à la vente, c'est sélectionner, voir les prix. Donc il y a toute une recherche à faire, et c'est vraiment un métier où on en apprend tous les jours. Moi-même, qui commence à avoir de l'expérience dans ce domaine, on nous amène des objets qui sont assez improbables. On nous a amené il n'y a pas très longtemps un appareil pour développer les photos des années 60. C'est vrai que j'avais jamais vu, je ne connaissais absolument pas du tout. Et c'est vrai que par ce métier, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On apprend l'histoire des objets, on rencontre du public. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ici, à la boîte à récup, on a un public vraiment très, très varié. On a tous milieux sociaux. Au niveau âge, c'est toute tranche d'âge aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà.
Jean-Pierre, dans les objets que vous récupérez, est-ce qu'il y en a certains que vous êtes amené à réparer, par exemple ?
Nous, on le fait très peu, parce que très, très clairement, en termes de temps, on n'a pas, quoi. En termes d'espace non plus, vous l'avez vu, les gens qui viendront nous voir donc ici verront que notre espace est petit, et c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc nous, non, c'est vrai qu'on vend en l'état, et si vraiment il y a des choses trop abîmées, donc nous, le but, c'est que ce soit un zéro déchet. Donc on les remet soit à des boîtes utiles, à d'autres associations, on essaye que rien ne se jette. Voilà, si nous, il y a des choses qui sont intéressantes, mais qui ne nous intéressent pas pour différentes raisons, soit parce qu'on les a déjà en double, voilà, c'est des livres, si c'est du meuble trop imposant, donc on contacte d'autres associations avec qui on est en partenariat ponctuel, et donc on fait en sorte que rien ne se jette, rien ne se gaspille, quoi.
D'accord. Léa, est-ce que je peux vous poser la question, savoir ce qui vous plaît dans cette activité que vous exercez ?
Oui, l'esprit familial. Avant tout, j'ai la chance de travailler dans une structure où il y a une bonne ambiance, tout se passe bien. Et puis la ressourcerie, il faut dire que être dans l'esprit de ne rien jeter, de revendre à petit prix, c'est une aventure humaine vraiment. Je ne trouve plus mes mots. Enfin, c'est une super aventure humaine, et avoir la chance de travailler là-dedans, c'est vraiment top, quoi. Donc,
Oui, parce qu'il faut bien voir qu'il y a aussi une dimension sociale. Je veux dire, nous, il y a les donateurs sans qui on ne serait rien. Et puis, il y a aussi ces objets qui sont revendus à petit prix pour aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne pourraient pas s'offrir aussi de la vaisselle. Enfin, nous, on a des très beaux lots de vaisselle, d'assiettes et tout, qu'on va vendre à quelques euros. Et vraiment, c'est aussi des choses que les gens ne pourraient pas s'offrir autrement. Donc il y avait vraiment un côté social. Et c'est vrai que moi, dans cette humblement dans cette aventure dans laquelle je me suis lancé il y a maintenant près de 2 ans, j'ai essayé d'y mettre ce que je suis, c'est-à-dire de le côté humain. Voilà. Et vraiment, ici, on a un côté familial. On est une petite ressourcerie, mais les gens ne sont pas indifférents. Ce n'est pas des gens comme les bénévoles qui viennent faire une permanence et qui repartent après. C'est réellement des gens qui sont impliqués dans l'assaut. C'est des gens qui s'apprécient, c'est des gens qui se connaissent, qui peuvent se retrouver à l'occasion d'AG, à l'occasion d'un petit repas un soir. Et voilà, chacun sa vie, mais les gens ne sont pas indifférents. Il y a vraiment quelque chose, un lien fort qui s'est créé au sein de l'assaut. Et donc ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et dont j'avais vraiment envie.
Vous vous inscrivez donc dans le schéma qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement des éco-solis auxquels vous avez participé récemment ?
Oui, tout à fait. Donc on a participé aux éco-solis ce week-end, et c'est vraiment une très très belle expérience. Donc il y avait 10 000 spectateurs, et donc là il y a tous les partenaires qui viennent de De la Loire-Atlantique, parce qu'il y a même dans les campagnes, il y a des ressourceries, il y a des recycleries. Donc, ça permet aussi de nouer des liens avec d'autres associations, puis de présenter notre travail au public. Ce qu'on fait, c'est aussi un formidable objet de communication, parce que quand on est une nouvelle asso comme la nôtre, on a aussi besoin de se faire connaître. Le bouche à oreille, c'est bien, mais ça met du temps. Et donc, c'est vrai que là, on a plutôt, on va dire, jusqu'à maintenant, une clientèle de quartier. C'est-à-dire de Orvault, Nantes, Saint-Herblain, parce qu'on est un peu à la juxtaposition de ces trois communes. Mais là, on peut toucher d'un seul coup un grand public. Et en termes de pécunier, il faut dire ce qui est, parce que l'économique est malgré tout important aussi pour notre asso. Bah, c'est vrai que là, c'est très intéressant, parce que quand on a la chance de toucher beaucoup de gens, forcément, donc, c'est une rentrée d'argent importante pour nos structures. Hein. Je ne parle pas que pour la boîte à récup, aussi pour toutes les autres associations. Et donc, c'est vraiment... On peut dire que Nantes a un tissu très, très, grâce à Nantes Métropole notamment, un tissu quand même très vivace. On a des acteurs vraiment qui sont très, très engagés sur le tissu associatif, notamment dans l'ESS. Et vraiment, les Écosolis aussi sont une structure qui fédère un petit peu toutes ces associations. On est membres, nous, adhérents des Écosolis, comme le sont toutes les associations de... Voilà, qui œuvrent dans ce domaine. Donc, très régulièrement maintenant, on fait des groupes entre associations. Donc, on a des groupes de travail pour voir un peu ce qui peut être fait. On parle de mutualisation en amont au niveau des déchetteries. Enfin, il y a beaucoup de projets via aussi Nantes Métropole, en collaboration avec Nantes Métropole. Donc, on essaie de proposer, une forme différente de au niveau des récupérations et aller plus en amont.
Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre, que l'économie sociale solidaire, que les ressourceries sont des structures qui vont être amenées à se développer, étant donné l'abondance de biens ? Ou est-ce que cette notion de valoriste n'est pas encore assez entrée dans le schéma économique actuel ?
Je pense que votre question est très intéressante, Olivier, et que... Comment dire ça ? Je pense que c'est amené à se développer, car justement, ce n'est pas encore assez connu. Déjà, on voit qu'en étant moyennement connu, on va dire, du grand public, on voit qu'il y a... Là, on prend la braderie sur une journée 10 000 personnes, c'est quand même énorme, et on voit que c'est amené à se développer. Et il y a une volonté des gens, de consommer différemment et d'arrêter le consumérisme et tout. On voit très bien au niveau des grandes surfaces que maintenant, on revient plus aux moyennes structures, parce que les gens en ont marre d'aller consommer un petit peu n'importe quoi. On voit au niveau de la nourriture. Enfin, tout ça, c'est lié à l'écologie, c'est lié à l'environnement. Donc, je pense qu'il y a vraiment, en parlant un petit peu trivialement, on va dire un marché intéressant par rapport à ces structures. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment, on ne s'est pas dit, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que tous les gens qui sont dans ces structures, qui sont dans ce domaine, le font parce qu'ils ont des convictions qui sont vraiment chevillées au corps. Ils le font pas par hasard. Mais c'est vrai que je pense que c'est amené, très clairement à se développer.
Léa, quant à vous, est-ce que vous envisagez un avenir professionnel dans l'activité que vous occupez actuellement ? Est-ce que vous envisagez éventuellement un jour faire concurrence, entre guillemets, une gentille concurrence à Jean-Pierre en ouvrant à votre tour une boutique ? Est-ce que vous avez des projets dans ce domaine économique ?
Faire concurrence à Jean-Pierre, non, je ne pense pas.
Merci Léa, merci.
Je ne pense pas. Après, moi pour l'instant, je suis très fière d'être dans cette structure-là, ça se passe très bien. Mais pour l'instant, ce qui concerne le futur et mes projets futurs, je suis un petit peu dans le flou. Donc je ne pourrais pas vraiment répondre à votre question.
D'accord, merci. Alors on va retourner un petit peu dans le passé de Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que je peux me permettre je me permets d'ailleurs de vous poser la question, à vous appartient la réponse. Qu'est-ce qui vous a fait, je suppose que vous n'êtes pas né en vous disant, tiens, un jour je vais travailler dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, en fait, vous êtes intéressé vraiment à ce projet-là ?
Je pense que déjà c'est mon éducation familiale, quoi. C'est vrai que, enfin, au niveau de mes parents, on a toujours mangé ce qu'on appelait au départ, on ne disait pas bio, on disait naturel. Voilà, donc c'est vrai que mes parents n'avaient pas forcément plus de moyens que les autres, mais ils étaient plus vigilants par rapport à ce qu'on allait manger. On avait de la famille en campagne, et donc on allait acheter les produits à la ferme, ce qui se fait maintenant. Et donc j'ai toujours évolué dans ce climat-là. et donc dans le respect de la nature, les animaux. Donc voilà, tout ça, ça se rejoint. C'est quelque chose de... vraiment le respect de la nature. Donc nos parents nous ont inculqué ça. Et je pense que c'est au départ, c'est dû à ça. Et après, c'est des rencontres aussi dans la vie. Et notamment la rencontre avec Philippe, donc plus récemment, il y a quelques années, donc le président de Station Service, qui... avec qui vraiment j'ai noué des contacts et où je me suis engagé. Et sans cette expérience de bénévole pendant un an et demi, je crois pouvoir dire que la boîte à récup n'existerait pas aujourd'hui. Donc le bénévolat, ça peut être très important, ça peut vraiment dynamiser, ça peut aussi faire prendre conscience de plein de choses. Et c'est vraiment cette expérience arrosée donc dans cette structure qui a été pour moi déterminante pour après pouvoir rebondir ici sur Saint-Herblain.
Alors, je perçois, et je pense que je ne suis pas le seul à percevoir votre enthousiasme. Cependant, je suppose que dans le cadre de votre activité, que vous définiriez comme un métier, une profession, une passion, je vous retends le micro ensuite, est-ce qu'il y a des difficultés? Quelle est la balance bénéfice-avantage selon vous? Les points positifs, les points négatifs, quelques-uns pour nous illustrer un petit peu?
Positif, c'est, je vais dire, depuis le départ, c'est une formidable aventure humaine. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a été après, c'est des rencontres, hein, c'est le hasard. Mais bon, est-ce que le hasard existe? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, ça a été des formidables rencontres par rapport à des donateurs qui, au départ, ont cru en notre projet, qui nous ont aidés, qui nous ont donné des choses de façon assez conséquente et qui étaient intéressantes. Donc, on a pu lancer de cette façon notre ressourcerie. Après, je dirais que ce qui est difficile quand on débute notamment, c'est, bon, ce que je l'ai dit déjà, trouver un local, c'est le financier, parce que bon, les subventions, on n'y pense même pas, très clairement. Donc faut, on s'autofinance et c'est compliqué. Donc au départ, c'est ma femme et moi-même qui avons payé, enfin les loyers, qui avons tout payé. Donc ce que je disais tout à l'heure hors micro, c'est que les deux premiers mois, c'était moi seul qui tenais le local. Et c'est vrai qu'après, c'est une évolution des choses qui se fait selon que ça peut fonctionner ou pas. Et c'est vrai que là, on est très clairement satisfait de notre première année. À notre première année d'activité, on a eu 30% de plus que ce qu'on avait prévu en termes de comptabilité. Donc c'est très très bien, mais il faut rester aussi très humble, parce qu'on sait que même si on progresse, même si on avance, chaque jour il y a des difficultés, chaque jour faut se battre pour exister, pour se faire reconnaître, pour rentrer dans cette boucle, dans le circuit des assos de l'ESS. Enfin, donc c'est pas évident, mais je veux dire c'est passionnant, rien n'est évident dans la vie, et c'est vrai que comme vous le dites, Olivier, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, c'est aussi quelque chose qui nous tient, et donc on le fait d'autant plus. Là, c'est sûr, il ne faut pas compter ses heures, quoi. On passe beaucoup, beaucoup d'heures, mais c'est vraiment pour un projet dans lequel on croit, et puis on voit qu'il y a des gens qui sont sensibles. On a des clients fidèles et tout, on a des donateurs, on a des gens qui nous soutiennent, des élus, enfin voilà, donc on est très content de tout ça, quoi.
Léa, est-ce qu'il y a des points positifs, des points de positifs, j'en doute pas. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Est-ce que avantages, inconvénients en fait de votre activité, de votre présence ici? Il y a des anecdotes qui vous viennent en tête éventuellement?
Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, ça c'est évident. Après, des inconvénients, là comme ça, j'en trouve pas vraiment. C'est beaucoup plus inconvénient, enfin c'est agréable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une aventure humaine, on découvre des objets tous les jours, des objets qu'on a jamais vus, donc non, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient, du moins j'en trouve pas là tout de suite.
Est-ce que les clients qui peuvent... est-ce qu'il y a des clients réguliers? Est-ce qu'il y a des clients exigeants? Est-ce que les clients qui fréquentent les ressourceries, en l'occurrence ici la boîte à récup, ont des requêtes, voire des exigences, on ne sait jamais, particulières?
Alors donc, en termes de clients, c'est très varié. Donc on a des clients qui viennent de milieux peu aisés et qui retrouvent ici des objets, donc comme je disais tout à l'heure, qu'ils ne pourraient pas s'offrir ailleurs. Enfin voilà, petit prix. Après, on a des collectionneurs. voilà, qui viennent aussi pour des objets, on va dire, un peu plus vintage. Après, on a aussi des gens, on en est conscient, c'est pas le propre au départ d'une asso comme les nôtres, mais bon, on est tous confrontés. Il y a aussi des gens qui viennent pour acheter et pour revendre aussi derrière. Voilà, c'est aussi un marché, donc... c'est peut-être ceux-là qui sont le plus exigeants et qui vont plus, je dirais, exigeants, enfin, qui vont plus négocier les prix, par exemple. Donc, c'est un petit peu, c'est pas vraiment, nous, on fait déjà des prix qui sont petits. Il faut bien savoir aussi qu'on a des loyers, qu'on a des charges à payer, on a les salaires. Hein. Donc, tout le monde n'a pas toujours cette philosophie. Il y a des gens qui viennent et qui n'ont pas forcément cette philosophie, notamment ces personnes qui revendent. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences et beaucoup de demandes. Je pense à un domaine plus particulier, c'est tout ce qui est vinyle. Très clairement, là, on a un boom sur les vinyles qui est énorme. Et on manque de... Si des gens qui nous écoutent sont prêts à nous donner des vinyles, il n'y a pas de problème, parce que nous, on est preneurs, comme des CD, comme des DVD, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a une forte demande. Il y a quelques années, c'est vrai que les vinyles, ça, c'était complètement mort, personne n'en voulait. Et maintenant, on a vraiment, vraiment une très forte demande et les gens sont assez exigeants sur ce qu'ils recherchent. Donc voilà, là, on a des collectionneurs, on a des gens qui revendent, on a aussi des passionnés qui viennent, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui viennent régulièrement donc ne verront jamais la même chose. Nous, on a des gens qui viennent toutes les semaines ici. Faut savoir qu'on est où on est situé là. On a des gens qui sont du quartier, qui habitent le quartier, mais aussi qui travaillent dans le quartier, que ce soit à la CAF ou au ministère des Affaires étrangères. On a pas mal de personnes. Et donc, on a des gens qui viennent régulièrement toutes les semaines. Donc, on fait en sorte, nous, parce qu'on a des choses en stock et parce qu'on a aussi des dons qui arrivent régulièrement, de changer toutes les semaines ce qu'on a à l'intérieur du magasin, de changer la vitrine pour justement que les gens qui viennent ne voient pas toujours les mêmes choses, parce qu'on est tous pareils. Si on va dans un magasin, on a envie de voir des nouveautés. Donc, là aussi, on a nous, ce devoir de proposer des choses qui peuvent être intéressantes aux gens. Après, sachant aussi que, en termes de dons, c'est très irrégulier. Il y a des fois où on peut avoir beaucoup de dons, des fois on en a moins. Donc voilà, donc c'est très très irrégulier. Puis il y a des fois des dons qui ne sont pas toujours de bonne qualité, parce que tout ce qu'on remet en vente doit être quand même en état correct. S'il y a des livres qui vont être déchirés et tout, qui vont être en trop mauvais état, on les met recyclés, hein, voilà. Mais il est clair que tout ce qu'on met en vente, même si c'est des petits prix, il y a un respect par rapport au public et ils doivent être quand même dans un état tout à fait correct.
Donc les objets qui sont apportés ici, en fait, est-ce que vous les stockez dans un autre endroit ou est-ce que ça arrive ici et c'est remis directement au rayon? Est-ce qu'il y a un sas de transition?
Je dirais les deux. Les deux. C'est-à-dire que les objets qu'on connaît bien, c'est-à-dire tout ce qui va être livres, vinyle, CD, DVD, jeux de société et autres, on va les remettre directement en rayon. Hein. On va les étiqueter, on les remet rapidement. Après, si c'est des objets qui sont un petit peu plus, un peu plus rares, qu'on a moins l'habitude d'avoir, je parlais tout à l'heure de cet agrandisseur de photos là, des années 60, donc là, après, ça va demander plus de recherche et il y a des choses qu'on stocke. Donc, c'est pour ça qu'on a une réserve. On a aussi plusieurs garages qui nous servent aussi de réserve pour stocker tous les objets. Donc, je dirais que ça dépend un peu du type d'objet qui nous est amené. Si c'est des objets qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien, oui, on va les mettre rapidement. Si c'est des choses qu'on connaît un petit peu moins, qu'on maîtrise moins, ça va pas forcément être directement. Et ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que chaque bénévole ou salarié ici amène ses compétences. Il y a des gens qui connaissent le linge ancien, il y a des gens qui connaissent la vaisselle. Et il y a moi qui va connaître les vinyles, les CD, les DVD. Il y en a d'autres qui vont connaître tout ce qui va être bijoux. Voilà, chacun amène ses compétences. On essaie aussi de mettre en avant nos bénévoles, nos salariés. Il faut savoir ici que nos bénévoles font à peu près tous les deux mois des ateliers artistiques. Donc on a eu origami, on a eu, on va voir macramé, on a eu restauration de bijoux, tricot. Enfin voilà, donc on essaie aussi de faire de mettre en avant le potentiel de nos bénévoles ou salariés.
Dernière question.
Ouais. Alors, Jean-Pierre, donc apparemment on se rend compte que gérer une ressourcerie, c'est un travail presque de chef d'entreprise. Apparemment que c'est aussi très ouvert sur le public, puisque vous m'expliquez que vous mettiez en place des ateliers. Apparemment, il y a demande. Est-ce que vous avez un projet d'agrandissement ou de soit d'agrandir la surface, soit de vous démultiplier, de vous répartir sur différentes zones de la surface géographique?
D'accord. Donc nous démultiplier, non. D'avoir plusieurs locaux dans plusieurs endroits, comme c'est le cas pour certaines assos, non. De nous agrandir, oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'ici, on est à 35 mètres carrés. Donc notre vocation n'est pas de devenir trop gros. Il y a des ressourceries qui sont très énormes, des grands hangars et tout, c'est très bien. Mais nous, on a vraiment envie de garder un côté convivial, un côté chaleureux pour le public, pour notre équipe qui travaille au sein de notre structure. Et donc, on aimerait avoir un local, rester sur Saint-Herblain, rester vraiment dans le quartier et trouver un local un peu plus grand, 50-60 mètres carrés, on va dire, mais toujours à dimension humaine. C'est vraiment ce qu'on a envie de garder, vraiment le côté proximité avec les gens. Et ça, c'est pour nous, c'est très important, quoi. Voilà.